Et on est parti pour une nouvelle interview dans notre petite série qui donne la parole à des hommes et à des femmes pour découvrir par quel trait d'union ils font tenir ensemble leur vie de chrétien et leur homosexualité. Je rappelle que ce podcast est proposé par l'association DUEC, Devenir un en Christ. Et moi, je m'appelle Jeff, c'est moi qui tiens le micro aujourd'hui et je suis avec Guillaume. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Jeff.
Alors Guillaume, je crois que ton témoignage est particulièrement précieux parce qu'on va l'entendre. Il rejoint beaucoup de parcours de vie à DUEC et ailleurs, et sans doute aussi qu'il rejoint ceux qui, parmi nous, réfléchissent à ce qu'ils veulent faire de leur vie. Alors avant de commencer, est-ce que tu pourrais simplement te présenter en quelques mots ? Moi, je sais juste que tu reviens de Saint-Malo, là.
Donc, j'ai 41 ans, je vis à Paris, je suis libraire dans une grande librairie religieuse à Paris, et quand on me demande depuis combien de temps je fais ce métier, je fais depuis 5 ans, et on me dit « qu'est-ce que tu faisais avant ?» Et avant, je dis que j'étais moine. Et ça fait toujours un effet sur les gens assez impressionnant.
C'est quelque chose que tu vas pouvoir nous raconter pendant le podcast. On va essayer de suivre un petit plan chronologique. Et donc, je me dis que ça peut être bien de commencer par le tout début. Et au tout début, au commencement, il y a toujours un petit garçon qui réalise sa différence auprès des autres. Voilà, comment pour toi ça s'est passé, cette découverte ? Qu'il y avait quelque chose en toi de différent.
Ouais, c'est vraiment le mot de différence. Et donc, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment découvert, que j'ai vraiment toujours vécu avec depuis aussi loin que je remonte. Et cette différence, elle s'est accompagnée en fait d'un drame. C'est-à-dire, j'ai toujours tout de suite vécu comme un drame. C'est-à-dire, il va y avoir quelque chose, une épreuve, une difficulté. Ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire d'une part qu'il fallait que je le cache. Donc vraiment, ça a été toute ma jeunesse, ça a été la peur d'être découvert. Cette découverte que j'avais faite, il fallait pas qu'elle soit découverte par les autres. Pas par mes parents, pas par les prêtres que je connaissais, pas par mes frères, pas à l'école. Donc vraiment, se camoufler, se cacher, se dissimuler. Et l'autre peur, l'autre crainte, c'était la peur de l'enfer. Ça, très, très vite, petit, je sais pas, au collège, au collège, je me suis dit, si jamais je vais de ce côté-là, si jamais je suis trop sensible à la beauté, au charme des garçons, eh ben, c'est l'enfer qui me guette. Donc j'avais un peu l'enfer sur terre si j'étais découvert et l'enfer dans l'au-delà si j'accomplissais mes désirs en fait.
Et donc c'est comme ça que déjà en étant enfant, en grandissant ou quand t'es ado, que tu te mets à ce moment-là, tu imagines déjà une trajectoire de vie possible, une façon de composer avec cette chose que tu caches en toi.
Non, pas du tout. Je me demande vraiment comment ça va se passer. Je m'imagine qu'à 18 ans, ça va s'arranger, miraculeusement. J'ai 18 ans, ça s'arrange pas du tout miraculeusement. Et vraiment, l'image que j'ai à ce moment-là dans ma vie, autour de 18-20 ans, c'est que je suis dans un crash test. C'est vraiment ça. C'est que je suis dans une voiture, et elle fonce tout droit, et elle va se crasher contre un mur. Donc le tout, c'est qu'on peut retarder l'échéance, mais on va dans le mur. Parce que je vais pas me marier avec un homme, c'est pas possible. Je vais pas me marier avec une femme, c'est pas possible non plus. Et tout ce qui est autour du sacerdoce et la vie religieuse, c'est compliqué, notamment parce que l'Église, dans ses textes officiels, elle demande de ne pas ordonner des personnes homosexuelles.
Et ça, t'en as conscience à quel âge déjà ?
Ça, j'en ai conscience. Le document est de 2005. Moi, j'ai 21 ans. Ouais. Donc, ça correspond vraiment au moment où je souhaite... Parce que c'était une idée qui m'habitait depuis tout petit. Vraiment, depuis tout petit, dès l'école primaire, pareil. Je disais pas ça à mes parents, mais quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je voulais être prêtre. C'était vraiment le grand désir de mon cœur. Et pour moi, c'était... dans ma tête, c'était pas une façon d'échapper à mon homosexualité. C'était peut-être ça dans mon inconscient, mais je le formulais pas comme ça. Ouais. Mais c'était vraiment quelque chose qui régulièrement m'habitait. C'était, j'allais donner ma vie au Seigneur comme prêtre.
Et donc, quand t'avais 21 ans, t'as déjà fini tes études ?
Oui, je suis pendant mes études.
Ouais. Ouais. C'est pendant tes études. Et en fait, c'est pas prêtre, là, la réponse que tu vas donner.
Non, c'est moine. C'est moine. Et alors, en fait, ça s'est passé en deux moments. Il y a eu un moment où j'ai fait une retraite dans un monastère. Et j'ai vraiment ressenti que le Seigneur m'appelait dans ce lieu. Voilà. Donc vraiment, ce qu'on appelle un appel. Et puis après, dans la phase de discernement qui a suivi, pendant à peu près un an et demi, deux ans après cet appel, il y a eu ce document de Rome. Mmh. Et là, je me suis dit, ça fermait une porte. Ouais. Et finalement, je me suis dit, toutes les portes sont fermées. Le mariage, la vie avec un mec, le sacerdoce, il ne reste plus que la vie religieuse, ouais. La vie monastique même. Et là, quand j'en ai parlé au père maître, donc le responsable de la formation des novices au monastère, il m'a dit, tant que tu n'as pas vécu publiquement avec un homme, c'est bon, on le prend. Donc moi, je me suis dit, ok, j'y vais, parce que tous les éléments un peu de discernement des signes extérieurs faisaient qu'il y avait une porte ouverte, il m'a dit, on fonce.
Tu m'avais raconté cette histoire là, un peu la dernière fois qu'on s'est vu. J'avais lu il y a quelque temps un roman de François Mauriac qui était homosexuel et qui a un moment de sa vie où il était le plus torturé. Il y a un livre qui s'appelle Le désert de l'amour. Et il y a un moment, l'héroïne qui dit « Je connais la vérité maintenant, nous empruntons la seule route possible, mais qui n'a pas été frayée pour ce que nous cherchons. » Est-ce que tu te reconnais dans ces mots?
Exactement, mais et tu vois, j'en parlais avec un autre frère du monastère qui est parti lui aussi, pas pour d'autres raisons, et il disait en fait peut-être que c'était le seul choix qu'on était capable de poser à l'époque. Il y a cette idée que, enfin tu vois, moi je le regrette beaucoup, j'ai l'impression, bon, je suis resté au monastère 14 ans, de 22 ans à 36 ans, et quelque part maintenant je me dis je me suis volé ma jeunesse. C'est même pas qu'on me l'a volé, parce que j'étais consentant, mais quelque part, je me la suis volée en quelque sorte. Et on se disait, ben voilà, mais peut-être qu'on n'était pas capable à 22 ans de faire un autre choix, en fait, et que c'était ce choix qu'on avait la possibilité de faire à ce moment-là, et que voilà, on en a fait un autre plus tard, mais à ce moment-là, c'était le meilleur choix possible pour nous.
Et finalement, il faut te regarder avec pas mal de douceur, quoi, parce que t'as pris une décision qui finalement permettait la vie, quoi.
Oui,
Voilà.
c'est ça,
Ouais.
exactement. Oui,
Ok.
et on m'a dit, on peut commencer à vivre à 36 ans. Donc voilà, c'est aussi
Ouais.
ce que je me suis dit.
Il y a aussi un mot que tu avais employé qui m'avait marqué au moment où tu fais le choix de frapper à la porte d'une abbaye pour devenir moine. On te le présente comme une
Oui.
protection pour toi, avec ce que tu dis de toi-même dans la vie, quoi.
Oui, et une protection et un refuge. C'est vraiment ça l'idée,
Ouais.
de me protéger de moi-même, de protéger des autres aussi.
De te protéger de toi-même, c'est fou en fait quand on y pense. Hein. C'est de quoi on parle là, de te protéger de quelque chose en toi qui te menacerait en
C'est
fait.
ça exactement,
Ouais.
et qui aussi n'a aucune fécondité.
Ouais.
C'est-à-dire vraiment, c'est quelque chose, on me disait souvent, ça ne mène à rien.
Ouais.
Cet aspect-là, de ta vie, pas sexuelle, parce qu'on n'a pas de vie sexuelle, mais de vie affective en tout cas, et de cette différence, elle n'amène à rien. Et en fait, tu vis avec cette différence dans un cadre qui n'est pas du tout fait pour elle, et tu sais pas quoi en faire. Elle a aucun lieu pour s'exprimer, aucun lieu pour vivre en fait.
En fait, on te présente pas des chemins possibles, mais on te met sous les yeux une impasse.
Ouais.
Et en fait, maintenant, je sais pas, porte ta croix,
C'est
porte.
exactement ça, c'est vraiment porter sa croix en
Ouais.
fait. Et on se dit, c'est pas plus difficile qu'une autre croix en fait.
Ouais.
Mais c'est pas, c'est, on, ça prend pas en compte ce que c'est vraiment qu'une orientation sexuelle en fait, qui est
Ouais.
beaucoup plus qu'une tendance à faire du sexe.
Ouais.
C'est un rapport au monde, une
Oui.
relation aux gens qui est
Ouais.
complètement différente. Ouais, et ça, c'est pas
Ouais.
du tout pris en compte en fait.
Il y a dans un livre là, du père Joël Pralong là, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, il cite le pape François, il dit que le discernement doit aider à trouver des chemins possibles. Mais là, on n'est pas du tout dans ça en fait.
Non.
Et donc on peut imaginer aussi que c'est une autre époque, enfin peut-être qu'on espère qu'aujourd'hui on n'accompagne plus de cette façon-là, mais là, il y a une défaillance énorme dans ton accompagnement pour discerner ta vie, on t'a mal
Oui,
accompagné quoi.
oui, alors c'est vrai, mais en même temps, c'est un peu une question de système. C'est-à-dire qu'on m'a toujours dit, t'es libre de faire autre chose. Je me rappelle, au noviciat, on me disait souvent, va voir les dominicains. Parce que j'avais fait des grandes études, je sais parler, prêcher, etc., enseigner. Et moi, je disais, mais en fait, dominicain, ça va me remettre dans la case prêtre, donc c'est pas possible. C'est toujours cette idée, bah, en fait, oui, moi, j'aimerais bien faire autre chose, en fait. Ça me plaît pas tant que ça, la vie monastique, mais puisque je suis bloqué, en quelque sorte. Et je sais pas si je t'ai raconté, mais donc j'ai eu une aventure sentimentale au monastère. Et là aussi, en fait, ça aurait été avec une femme. On m'aurait dit, tu barres du monastère 6 mois, tu vois ce que ça devient. Et au bout de 6 mois, si c'est pas, il se passerait, enfin, tu construis pas ta vie avec cette femme, tu reviens. Mais là, on m'a dit, tu l'oublies, ça n'a aucune possibilité, en fait. Ça ne donnera rien. Au moins, au monastère, tu construis ta vie. Et là, avec ce garçon-là, tu construiras jamais ta vie. Vous ne ferez que vous détruire ou vous aller nulle part.
Ouais, c'est quelque chose que tu disais aussi un peu, c'est que finalement tu te retrouves dans un mode de vie qui n'intègre pas ton orientation affective. C'est-à-dire que la vie monastique, on est entre hommes, on est dans des hôtelleries où tous les autres invités à votre table ne sont que des
C'est
hommes. Donc il y a
ça.
un tri qui est fait d'une certaine
Ouais.
façon et qui t'expose en fait,
Bien
finalement.
sûr.
T'es assez exposé en
Oui.
étant moine.
Oui, bien sûr. Oui. On est d'autant plus exposé que on est un jeune frère. Donc aussi, on nous met facilement en contact avec des jeunes pour la question de montrer une belle image à l'imastique, de recruter. On est aussi, comment dire, et les gens n'imaginent pas aussi, hein, ils imaginent un moine comme quelqu'un de pur, ouais. de chaste. Il a fait un vœu de chasteté, donc il doit être chaste. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas de désir ou qui... voilà, donc effectivement, la clôture, elle est, et même la littérature monastique, ouais. elle enseigne que le danger, c'est les femmes. Ouais. Elle ne prend pas du tout, ou très très peu à la marge, en compte qu'en fait, moi, on met des femmes avec moi, il ne se passera jamais rien.
D'ailleurs, il n'y a aucun risque.
Aucun risque, c'est ça. Ni pour elle, ni pour moi, voilà. Mais, ouais.
Et en fait, donc tu t'avances dans cette vie en réalisant qu'elle ne répond pas à ta situation, enfin en tout cas que ce n'est pas une trajectoire justement qui est épanouissante et tout ça. Est-ce que tu parles, dans ton cas, d'un masque que tu portes dans ta vie quand tu es auprès des autres? Ou est-ce que tu te sens quand même toi-même ?
Je dirais que je sens au fil des années qu'il y a une espèce de double vie qui s'installe. Donc un discours que je tiens aux gens que je rencontre. Ouais. Par exemple, on fait beaucoup de témoignages avec des groupes de jeunes, de scolaires, etc. Donc là, tu racontes un peu ce que c'est que le moine parfait ou la vie monastique idéale. Et à un moment, tu finis par y croire aussi. Hein. Ouais. Donc ça, c'est... Voilà. Et en même temps, des choses que tu fais... ou que tu penses, ou que tu fais en cachette, ou un peu discrètement, ou, enfin voilà, un peu pas Dr Jekyll et Mr Hyde, mais tu te dis, là, moi, ma grande phrase pour moine, ça veut dire unir, unifier. Oui. Ma grande phrase, c'était un des psaumes, unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Et je me suis dit, moi, je suis rentré pour ça, pour unifier ma vie, et la vie monastique, elle est en train de me désorganiser, de me déstructurer, de faire que je parle de la vie monastique aux gens et que le soir, dans ma chambre, je regarde des séries télé pour tenir le choc de la vie monastique. Je me dis, moi, je ne fais pas ça pour ça. Il y a une phrase très forte dans la règle de Saint-Benoît, c'est de certains moines, ils mentent au monde par leur tonsure. Et je me suis dit, moi, je ne suis pas rentré pour ça. Je ne suis pas rentré pour qu'on me dise, oh là, c'est dur la vie monastique, oh là, vous devez beaucoup peiner, qu'est-ce qu'on vous admire d'être moine, et en même temps faire des trucs qui sont contraires à l'esprit monastique par derrière. Donc quand j'ai pris conscience que vraiment ça s'aggravait, je me suis dit, mon espoir, c'était qu'on me mette à la porte.
Ouais.
Parce que comme ça, ça m'a évité de prendre une décision. Et puis, en fait, il s'est passé le Covid. Et le Covid a révélé, a accéléré les choses et m'a donné la force, paradoxalement, de me dire, maintenant, je peux partir. Maintenant, j'ose partir. Parce que cette vie, elle est très belle. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais elle n'est pas faite du tout pour moi. Et elle produit l'effet inverse de ce que je suis venu chercher. Donc, OK, au revoir. Hein.
Pour arriver à cette décision-là, il y a bien eu quand même des petits pas. Est-ce que tu as des étapes que tu discernes et qui te réouvrent à cette possibilité-là ? Enfin, qui fait que tu t'autorises à te dire, mais en fait, je dois m'en aller.
En fait, intérieurement, j'étais comme un peu l'eau qui fait son œuvre d'érosion, là. Oui. Et moi, je ne sentais pas du tout. Et il se trouve qu'à la fin du Covid, donc on a eu la vie complètement chamboulée par le Covid avec beaucoup de malades, la vie régulière, elle a été arrêtée. Et à la reprise, on a repris le rythme. Moi, je n'ai pas du tout réussi à reprendre le rythme. Et un jour, je trouve à ma chambre, à ma cellule, sur la porte, un billet. Il faut que le frère Dominique, c'était mon nom, vienne s'expliquer au chapitre de tous ses manquements, de tous ses retards à la vie monastique depuis un mois. Et là, j'ai pris ce papier. Je me suis dit, mais en fait, ce frère a raison. Ce frère est une bénédiction. Je fais n'importe quoi depuis un mois. Et c'est le signe. En fait, il m'a libéré sur me dire, mais en fait, t'es plus à ta place. Et je me suis toujours dit, on n'est jamais trop loin pour la miséricorde de Dieu. Il peut toujours nous rattraper où qu'on aille, quoi qu'on ait fait. Et pour la vie monastique, il y a des fois, on peut dire, t'es trop dans le décor, j'ai trop déconné. Les gars, j'arrête. Voilà.
Je me suis dit... T'étais à côté, en fait.
Ouais, exactement. Je suis à côté, je suis dans le décor, je suis sur un chemin parallèle à vous. Je suis pas... Enfin, voilà, c'est trop tard.
Donc au bout de 14 ans,
ouais.
Tu décides de quitter l'abbaye où t'es.
Ouais.
Et là, tu te retrouves... moi, je trouve qu'il y a un certain courage. Enfin, au passage, bravo, quoi. Parce que le premier courage de rentrer à l'abbaye, ouais. Donc de renoncer quand même à tout ce qu'on demande à un moine, quoi, ouais. Et tu l'as fait. Et tu vas le faire une deuxième fois dans ta vie.
C'est ça.
Tu vas te retrouver privé de tout ce que tu as construit jusqu'à présent, ouais. Le milieu, l'entourage. Et là, tu repars de zéro, en fait.
Oui, alors effectivement, je repars de zéro. Il y a des gens qui me disaient, par exemple, « t'as pas changé en 15 ans ». Ce qui, à la fois, est gentil, en même temps, te dit... En fait, c'était très révélateur. Ils me retrouvaient comme ils m'avaient quitté. C'est-à-dire que j'avais pas progressé en 15 ans. Ça, c'était à la fois amusant et violent. de se prendre ça. Et effectivement, donc j'ai tout quitté en rentrant au monastère. J'ai quitté l'argent que j'avais, la carrière que j'envisageais, les amis que j'avais. Mais tous mes neveux nièces, ils sont nés pendant que j'étais au monastère. Donc j'ai perdu avec 15 ans de relations qui sont irrattrapables. Et de nouveau, la carrière universitaire que j'avais en tant que moine qui s'ouvrait à moi, les relations, tout ça, j'ai de nouveau perdu. Donc quand Jésus m'a beaucoup demandé. Oui. Très bien, il n'y a pas de problème. Et en fait, j'ai vraiment été aidé. J'ai eu la chance d'avoir une famille très soutenante quand je suis sorti du monastère, et sans savoir pourquoi j'étais sorti. Donc ça, vraiment, pour moi, ça a été vraiment un très beau témoignage d'amour parental, de me dire, écoute, on te soutient, c'est difficile, on ne veut pas savoir, on ne te demande pas de nous révéler ton histoire, mais on est là pour toi et pour t'aider.
Incroyable, ouais. Ça c'est énorme. Ouais. Peut-être que tu l'as senti, que ta famille était à tes côtés, même dans cette décision-là, quoi, avant même qu'ils te le disent.
Et puis on nous dit tellement dans l'Église que l'amour inconditionnel des parents, enfin l'amour inconditionnel de Dieu est à l'image de celui des parents, enfin voilà, il y a une image comme ça. Je me suis dit, on va voir si c'est le cas, et ça a été le cas.
C'est quand même vrai. Ouais. Et aussi, et de Dieu, là, l'amour de Dieu, tu le sentais aussi. Tu me l'avais présenté la dernière fois qu'on s'est vu comme tendre et. L'autre mot, Dieu est tendre et...
Qu'est-ce que j'ai raconté
encore et à la fois, il ne bouge pas, quoi. J'ai plus le mot en tête. C'est-à-dire qu'il est intraitable, quoi.
Oui, il y a un côté comme ça, oui. Ouais. En même temps, je pense que... Comment dire, il y a quelque chose d'un peu de la foi nue, qui est de dire... quelque part, j'avais l'impression que le Seigneur avait trompé. Il m'avait dit... J'avais cru qu'il me disait « Tu vas dans cet endroit, je vais prendre soin de toi, tu vas progresser, tu vas devenir un saint. » Et c'est pas du tout ça qui s'est passé. Dans un couple, on peut se dire « C'est la faute de l'autre. » Avec Dieu, on peut pas dire « C'est la faute de l'autre. » Parce que c'est pas le cas. Donc il y a vraiment cette idée, je dois croire, presque contre l'évidence de ma vie, que Dieu est bon et que Dieu veut mon bonheur. Et ça, je trouve que c'est pas facile, en fait. Parce que parfois, on se dit « Mais en fait, ça... » Quand j'ai fait le pari de donner ma vie à Dieu, j'ai pas eu de... Il nous dit dans l'Évangile, vous recevrez au centuple des ici-bas. Mmh. Moi, là, non, j'ai pas reçu au centuple. Mais voilà, mais c'est pas une raison pour l'abandonner. Thérèse de Lisieux, elle disait, même s'il me broyait, je continuerai à croire, à espérer en lui.
Et donc ça, ce sont des choses, en fait, qui t'ont fait tenir.
Oui.
Tu savais que Dieu pouvait fonctionner comme ça,
oui,
en fait.
Oui, tout à fait, oui. Et aussi me dire... et ça a beaucoup changé aussi mon rapport à comment vivre mon homosexualité. C'est-à-dire, au fond, Dieu veut mon bien. Il ne veut pas un bien en soi, une doctrine, une idée. Il veut mon bien à moi. Et ça, du coup, je me suis dit, écoute, ce que l'Église me propose, et dans quoi je me suis embarqué, et je veux dire, j'ai pas vécu héroïquement, ça ne veut rien dire, mais...
Moi je trouve,
j'ai vécu loyalement, c'est-à-dire j'ai vraiment fait le test de dire, écoute, l'Église me dit que la chasteté, c'est un chemin de vie, et on y va. On y croit. Et je faisais la propagande autour de moi et tout. Donc on y croit vraiment. Et bien ça c'est un chemin qui, parce qu'il était vécu de manière pas ajustée ou je sais pas quoi, n'était pas un chemin de vie pour moi, un chemin de bien.
Oui.
Je dis pas que la débauche est un chemin de vie.
Parce qu'encore une fois, tu l'as pas choisi en fait.
Non, aussi c'est ça.
C'est qu'en fait, on te l'a présenté, on t'a mis devant tes impasses.
Mais parce que l'Église donne pas le choix actuellement.
Oui.
Elle dit qu'il y a qu'un chemin de bonheur possible, c'est la chasteté, et que la chasteté pour une personne homosexuelle, ça passe uniquement par l'abstention de toute relation et sexuelle et affective. Donc c'est quand même... Il n'y a pas de choix, enfin, il n'y a pas rien à choisir. Hein.
Ouais, elle ne propose pas des chemins de vie.
Pas du tout.
Hein. Ouais. T'as de la colère vis-à-vis de ça, ou aujourd'hui... Enfin, je ne le sens pas, moi. Je sens plutôt que t'es très vif d'esprit, et que tu veux prendre à bras-le-corps la problématique. Devant le fait que l'Église ne propose pas de chemin, ça crée quoi en toi comme émotion, comme réaction?
Ouais, je sais pas si... Non, c'est pas vraiment de la colère. Je vois de la colère, je pense qu'il y a des abus, qu'il y a des agressions. Oui. Ça, j'ai de la colère. Mais j'ai vraiment on ne cèdera pas, on ne lâche rien. C'est un truc d'amanipurisme.
On peut le reprendre.
On peut le reprendre, c'est ça, oui. On ne lâche rien. Et en fait, ce qui est désastreux, c'est quand on connaît un peu les milieux d'église, on voit des prêtres, on voit des religieux, des évêques qui disent, mais en fait, vous avez raison. Mais qui ne le diront jamais en public parce qu'ils ont trop à perdre. Mais vraiment, voilà, donc c'est ça me mettrait presque plus en colère.
Ok.
Mais vraiment, on ne lâche rien.
Ouais, très bien. C'est un bon slogan. Et peut-être on peut marquer une pause là, avec une petite pause musicale. Je ne sais pas si tu as quelque chose à nous partager, à faire écouter.
Alors, ça s'appelle le Victime Pascali Laudes. C'est un chant de Pâques en grégorien, donc ça rappelle mon passé monastique. Et c'est un chant qui chante la victoire de la vie sur la mort.
Ok, bon, c'est parti pour ce chant grégorien. D'entendre le Victime Paschali Laudes, donc une séquence grégorienne qui est chantée au matin de Pâques. Et on a entendu donc notamment ce couplet « Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. » Donc voilà, on retrouve Guillaume donc dans cette période de ta vie où tu quittes la vie monastique. Et j'ai pensé à ce passage de la règle de Saint Benoît, au chapitre 4, que tu connais sans doute, où il est demandé aux moines, je cite, « de n'avoir pas de tromperie dans le cœur ». Et voilà, je trouvais que ça rejoignait le fait qu'on n'a pas tenu compte de ce que tu avais dans le cœur, quoi, de ce que ton cœur te disait.
Mais je pense aussi qu'il y avait l'idée que, d'un narratif que j'avais mis en place en disant « je suis de moins en moins homosexuel ». C'est-à-dire, pour que je me rappelle très bien avoir dit ça à mon père abbé, par exemple, dans l'idée de me normaliser, en fait. Je savais bien que c'était pas vrai du tout, je veux dire. Mais il y avait un espèce de narratif où je voulais dire que j'étais en train de m'en détacher. Et en fait, c'est pas... Enfin, voilà.
C'est jamais arrivé.
Non, c'est jamais arrivé, non.
J'ai trouvé amusant aussi que dans l'abbaye où tu étais, et je sais pas si tu le savais, mais il y a un homosexuel célèbre qui est venu...
Oui.
Max Jacob.
Ouais.
Ouais. Tu en avais conscience quand il était.
Oui, oui. Mais pareil, Max Jacob, on avait tout un discours autour de lui de rédemption. C'est-à-dire, il était à Paris, à Montmartre, avec une vie sexuelle active débridée, et il s'est converti, et donc il est venu à Saint-Benoît. Donc c'est un peu toujours le même schéma qui plaît tellement aux cathos du converti, en fait. Mais oui, ça, j'en avais conscience.
Ok.
Et on disait qu'à ses invités, il leur apprenait des catéchismes pas toujours très orthodoxes.
Ok. Bon, il avait quand même pris un peu de liberté à la
Mais oui, oui, oui. Mais, ouais. Voilà, mais il y a toujours quand même cette idée, il s'est converti, en fait.
Oui.
Ouais. Il a changé de vie.
Ok. Et ça, tu l'as découvert en étant dans ton abbaye ou ça faisait partie un peu de la... C'était un modèle pour toi, un moment où...
Non, non, ma référence homosexuelle catholique... C'était Julien Green.
Ah oui.
Voilà, donc Julien Green. Ah, on connaissait pas encore le journal en complet à l'époque. Mais voilà, ça, je me enfin vraiment, il y avait des phrases où je me disais, je pourrais les prononcer. Dans tous ses combats pour la chasteté, contre la masturbation, contre les désirs qu'il a, quand il raconte les personnes qui l'entourent, ses amis, ses camarades, vraiment, je disais, ça, je me retrouvais là-dedans, en fait.
Ouais. Julien Green, pour ceux qui nous écoutent, donc c'est ce romancier américain et français.
Ouais, c'est ça. Et franco-américain.
Franco-américain qui écrivait en français, mais dont on a réalisé il y a quelques années, avec la parution de ses journaux intimes. Pendant plus de 70 ans.
Ouais, Marie a vécu de 1900 à 1999.
Voilà. Et on réalise à la parution de son journal qu'en fait il n'a jamais cessé de pratiquer une vie affective et sexuelle, en couple notamment.
Mais pas qu'en couple.
Mais pas qu'en couple. Voilà. Ouais. Et en fait, ce romancier qui s'affichait catholique et dans le rang, finalement, il n'était pas du tout dans sa vie intérieure.
Mais il y a quand même eu toujours chez lui, malgré ses, enfin, quelque chose, ses activités sexuelles, un vrai combat intérieur.
Ouais.
C'était pas non plus un... Enfin,
oui. Oui, oui. Oui, il a quand même vécu un vrai combat, oui. Et c'est ces mots-là du combat que tu as retrouvé.
Exactement, c'est ça.
Ouais. Et tant qu'on est dans le combat, aujourd'hui, pour qualifier ton combat actuellement, c'est quoi tes combats d'aujourd'hui ? De chrétien, mais peut-être plus généralement, ce qui t'anime, pourquoi tu étais prêt à te battre ?
Tu veux dire pour l'Église ou pour moi-même ?
Pour toi-même, les choses qui t'animent intérieurement, qui te meuvent, quoi.
Alors, une chose qui me meut, c'est la figure de Jésus dans les évangiles. Jésus, il est toujours ajusté. C'est-à-dire, il a toujours la parole juste, l'attitude juste, la relation juste, la rencontre juste. Et ça me fascine. Et moi, c'est ça que je veux vivre, en fait. Je suis chrétien pour vivre de manière aussi ajustée que Jésus, à son père, à ses apôtres, à Marie-Madeleine, à tout ça. Chaque page de l'évangile que je lis, ça me fascine. Jésus, c'est le gars qui se fait tripoter les pieds par une prostituée qui lui a eu du parfum, avec ses cheveux, avec des larmes, chez un gars, et lui, il pourrait se dire « Je la prends pour moi, cette femme. Elle me plaît. » Il lui dit « Va. » C'est quand même incroyable. Il n'y a pas plus chaste comme attitude, en fait. C'est une scène de sensualité extrême et d'une chasteté extrême. Voilà, Jésus, c'est celui qui ne prend pas pour lui. Et ça, c'est le vrai sens de la chasteté. Jésus, c'est le gars qui dit qu'il n'écrit rien et qui laisse quatre évangélistes écrire quatre vies où c'est le même Jésus, mais il y a tellement de différences, tu te dis « Mais waouh, c'est... » Tu vois, même la Samaritaine, on lui dit toujours « Va et ne pêche plus » à la femme adultère. Mais à la Samaritaine, il ne dit pas ça. Il dit juste « Ok, c'est pas ton mari. » Mais il ne lui dit pas « Quitte-le. » Il lui dit juste « Et qu'est-ce qu'elle fait ?» Après, elle devient missionnaire. C'est-à-dire, elle est en situation régulière et elle devient quand même missionnaire. Incroyable. Trop bien. Incroyable.
Ouais. Bon, c'est super. Je voulais te demander un peu tes modèles et tout ça, mais une fois qu'on a parlé de Jésus, il n'y a plus rien à dire. Ouais. Je pense que... Ben voilà, hein, le débat est clos. Des lectures ou des paroles qui t'ont marqué, alors pas forcément, ou des modèles même de sainteté qui aujourd'hui en fait t'animent pour intégrer les deux dans ta vie. Mais j'ai l'impression que tu poses pas tout à fait la problématique comme ça, c'est-à-dire que tu te demandes pas comment être un chrétien avec une homosexualité aujourd'hui, mais parce que finalement c'est fait.
Oui,
tu sais déjà.
Oui.
Unifié en toi,
oui.
Mais quels sont les modèles qui t'animent en général, quoi ?
Eh bien, je dirais les saints brûlants. Et en fait, je trouve que par exemple, j'en pense à deux, là, Charles de Foucault et Thérèse d'Avila, qui étaient vraiment des saints. Je pense qu'il faudrait faire un étude sur la sexualité parce que c'est passionnant. Mais il y a vraiment cet aspect qu'ils brûlaient de désir pour Dieu. Mais du coup, il y avait quelque chose de très charnel dans leur amour et très enflammé, en fait. Et ça me parle beaucoup. C'est-à-dire, le vrai risque, quand même, c'est de devenir froid, en fait, de perdre, de plus enflammer le monde. Et eux, ils étaient là, ok. Il y a même Jean de la Croix qui dit, c'est normal que quand on a des érections parfois, quand on fait oraison. Donc, cette idée que, il vaut mieux avoir ce problème-là que d'être un mollusque ou d'être un pruneau ratatiné, quoi. Donc, ça me touche beaucoup, c'est ça enflammé.
Voilà. Les seins brûlants, l'expression, ouais. Les toits ou...
Non, oui.
C'est génial. Oui. Oui, qui brûlent de désir.
C'est ça, ouais, exactement. Dans ouais. Et d'ailleurs, c'est fou parce que c'est généralement les seins qui, les problèmes de chasteté, font pas trop peur. Enfin, ils considèrent, parce qu'ils sont bons catholiques, que c'est grave. Mais c'est pas des drames, parce que c'est pas forcément la chose qui les perturbe le plus. Pas pour les autres, je veux dire, eux, ils sont parfaitement chastes. Mais, ouais. Mais vraiment, voilà, être enflammé d'amour.
Il y a une place au désir énorme.
Oui.
Et
au corps aussi, énorme.
Il y a une question, moi, que j'aime bien poser à la fin, souvent, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire à l'enfant que tu as été pour qu'il avance avec confiance dans la vie. Ça peut être la parole que tu aurais aimé entendre, mais c'est aussi celle que tu souhaiterais qu'on dise aujourd'hui à quelqu'un qui est concerné.
Alors c'est moi ce que j'aurais voulu, ce que je dirais au petit Guillaume qui a 10 ans, c'est un peu violent, mais je lui dirais quand même, je lui dirais Dieu va briser tes rêves, mais il ne te lâchera jamais la main. Mais il y a vraiment cette idée, mon gars, t'as des rêves. T'as des rêves qui est de devenir prêtre, prêcher le monde entier, quitter aussi avoir un château, une famille nombreuse, parce que me marier, faire un grand mariage, rendre heureux tes parents avec des petits-enfants. Tous ces rêves-là, devenir un prof, un enseignant, un chercheur, avoir la Légion d'honneur, l'Académie française, tous ces rêves-là, il va les briser. Il les a brisés d'ailleurs. C'est pas il les a brisés, mais il ne te lâchera jamais la main quand même. Alors je pense qu'il serait pas capable de l'entendre, mais je pense qu'on m'aurait dit ça, enfin, c'est un peu violent, mais peut-être que j'aurais pu me dire, ah ouais, ça c'est des refs. Il y a une phrase qui dit dans les psaumes, Dieu est un Dieu briseur de guerre. Ben, je crois que c'est un Dieu briseur de rêves aussi.
Donc, je te demande pas quels sont tes rêves aujourd'hui, du coup, mais tes espérances aujourd'hui, là, de chrétien, comme tu as une... Tu as une compréhension fine du problème, on va dire, parce que tu l'as vécu. C'est quoi tes espérances aujourd'hui ?
Moi, j'ai deux grandes espérances. C'est d'abord qu'on prenne le sujet à bras-le-corps, ce sujet-là de l'homosexualité dans l'Église et de la sexualité en général dans l'Église, sans se voiler la face, sans dire bah, la pastorale suffit, l'accompagnement personnel suffit, qu'on pose vraiment les vrais problèmes. On verra les réponses qu'on apporte, mais qu'on pointe les vrais problèmes. Et mon autre grand désir, et c'est aussi pour ça ce podcast, c'est qu'éviter qu'un jeune qui a 20 ans, il refasse le même parcours que moi. Vraiment, ça c'est juste... Enfin, c'est vraiment... je vois trop de jeunes qui ont 20 ans de moins que moi. On pourrait se dire, mais ils ont... la société, l'Église ont quand même tellement changé sur ce point-là. Moi, quand j'étais petit, je connaissais aucun homosexuel. Enfin, c'était vraiment... Je pouvais pas... Enfin, aucun nom à citer. Et je me dis, mais ils sont toujours dans le même combat que moi, toujours dans la même impasse que moi, toujours la même difficulté, la même souffrance. Mais je dis, mais c'est pas possible. Il faut absolument que ça s'arrête, ça. Ça sera peut-être toujours compliqué d'être homosexuel, hein, mais que c'est ce poids de culpabilité, d'impasse, d'obscurité, c'est vraiment pas possible. Que ça demeure encore.
On peut imaginer qu'il fallait peut-être que des hommes comme toi passent par là
pour le dire. Et aussi que... il fallait, c'est aussi que les gens en parlent, et aussi, et ça c'est, je vois le drame, c'est que beaucoup de gens qui ont le même parcours similaire à moi, en fait, ils en voient tout balader. Je leur en veux pas du tout, hein. Mais du coup, ils ont, ça a été tellement éprouvant que du coup, l'Église, Dieu, la foi, Jésus, tout ça, c'est bazardé, parce qu'on a besoin de se libérer, de vivre autre chose, en fait. Mais de tenir, en fait, que non, que le message de Jésus, il est valable, et le message de vie pour tout le monde aujourd'hui. Ça, moi, je lâcherai jamais, en fait.
Ouais. Mais comment ça se fait qu'à aucun moment, t'es voulu justement tout bazarder ? Comment ça se fait qu'il y a eu des défaillances, quand même, dans ton accompagnement ? Des gens qui t'ont aidé à discerner ne t'ont pas beaucoup aidé,
en fait. Oui, non, pas du tout.
Ça n'a pas été très juste.
Enfin, non,
pas
du tout, tu dis. Bon. Oui.
Et comment ça se fait que ça t'a pas complètement fait quitter cet univers-là ou,
mais vraiment, ça ne va pas dire les choses, mais moi, j'ouvre une page d'Évangile. Mais je suis réconcilié avec Jésus, enfin, pas besoin de réconcilier avec Jésus, mais la fascination de Jésus demeure toujours. Et la fascination est le fait que moi, j'arrive pas à vivre j'ai le désir de vivre ce que vit Jésus, et je peux pas, j'y arrive pas. Je suis pas fou, je vois bien. Donc j'ai besoin qu'il m'aide. Et donc, voilà, ça c'est ma foi, en fait. Et là-dedans, tu fais tout rentrer, les sacrements, l'Église, tout ça.
Tu fais l'expérience que t'as besoin d'être sauvé.
Quoi. Exactement, ouais. Exactement. Et ça, l'Église me dit comment. Mais vraiment, cette idée, ouais, je veux vivre ce que Jésus a, comment Jésus vit, en fait. Donc vraiment, ouvrez une page d'Évangile, mais il n'y en a pas une qui ne soit pas un modèle pour chaque jour, quoi.
Bon, c'est génial, on va finir là-dessus.
Et j'irais même, c'est quelque chose dont je prends de plus en plus conscience, c'est presque plus la manière dont Jésus vit que ses paroles. Ou du moins, c'est jamais l'un sans l'autre. Enfin, il nous montre toujours comment ses paroles sont à comprendre. Tu vois, il nous dit, il vante par exemple les tout-petits. C'était un évangile qu'on avait il y a deux jours. Et le prêtre, il a fait une homélie sur être un bébé dans les bras du bon Dieu. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être un bébé. C'est régressé. Jésus, il est le tout petit du Père. À aucun moment, il est un bébé. C'est le gars le plus responsable, le plus déterminé. Il sait où il va, il prend des décisions. C'est un adulte. Donc, tu vois, la vie de Jésus comme mise en pratique de ses paroles.
Ouais.
Ça, c'est mon prochain livre.
Ok, super, on a hâte de te lire, Guillaume. Et merci beaucoup pour ce temps d'échange. Et à une prochaine fois.
À une prochaine. Ciao.